Alors, merci de l'invitation que vous nous faites. Une fois ou deux par année, on vient faire notre visite. On est content d'être parmi vous ce matin. Et puis, si je peux me permettre deux petites annonces. Je n'ai pas parlé aux anciens, mais je fais mes petites annonces. À la librairie, on est à la recherche de personnel. Vous savez qu'il y a peut-être certains prix pour la librairie chrétienne. Alors, on recherche... une personne. Si vous voulez prier pour cela, que le Seigneur nous envoie la bonne personne qui va convenir pour rejoindre notre équipe. Alors, c'est une requête que je vous demande, si vous avez à cœur de prier pour cela. Et la deuxième annonce que j'aimerais faire, c'est qu'on aura à la fin du mois d'avril, deux samedis de séminaire avec Bertrand Audéou. Bertrand Audéou, il vient de la France, c'est un conférencier, tout ça, puis il va faire deux samedis complets sur... vivre libre en Christ. Donc, la vie pour être victorieux sur le péché, sur la tentation, tout ça. Alors, c'est deux samedis complets qui vont avoir lieu. Vous aurez les annonces, on vous fera suivre des annonces. Ça va se passer à l'Assemblée évangélique de Sainte-Foy, donc fin avril. Et ce matin, écoutez, j'avais un message... hier, que j'ai revisé comme il faut. Puis ce matin, il y a eu tellement de lectures dans Colossiens que je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, je pense qu'on va aller vers Colossiens. C'était le départ de notre culte ce matin. Et on va aller lire Colossiens à nouveau, chapitre 1. Qui nous présente la personne du Seigneur Jésus. Et c'est important d'avoir une bonne doctrine, une bonne compréhension de qui est le Seigneur, parce que tout découle après. Lorsqu'on a une bonne compréhension, une bonne doctrine sur la personne du Seigneur, bien, on peut mieux l'aimer, mieux le servir, mieux l'attendre. C'est important. Et on va relire ce qui a été lu ce matin dans Colossiens 1, et on va commencer à partir du verset 15. D'ailleurs, les derniers versets 13-14 nous parlent du Fils bien-aimé, le royaume du Fils bien-aimé. Et là, l'apôtre Paul commence à le présenter, le Fils bien-aimé, à partir du verset 15. Alors, commençons la lecture, Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On va prier un petit moment encore. Seigneur, on se courbe devant toi. On est devant les Saintes Écritures, devant ta parole inspirée, et on voudrait que tu parles à nos cœurs et qu'on ait une vision claire de la personne du Seigneur Jésus, une compréhension de qui il est et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Seigneur, rehausse notre compréhension pour qu'on puisse mieux l'aimer, mieux le servir, et on veut se remettre entre tes mains, remettre... notre assemblée Sainte-Foy, remettre les classes d'école du dimanche, tous ceux qui se penchent pour mieux te connaître, mieux te servir. Seigneur, on veut te demander ta bénédiction sur tous aujourd'hui, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Il y avait un évangéliste, c'était comme le Billy Graham des années 1800, il s'appelait Moody. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? D.L. Moody. Et il y a eu une exposition universelle à Chicago en 1893. Ceux qui ont connu, ceux qui sont plus vieux ont connu l'expo à Montréal en 1967. Bon, je pense que j'avais 12 ans à ce temps-là. Il y en a qui n'ont pas connu ça. Mais il y a eu, en 1893, une exposition universelle à Chicago. Et il y a eu des millions de visiteurs. Et les chrétiens se sont préparés pour cet événement-là, pour faire de l'évangélisation. Ils ont loué des salles, ils ont loué un chapiteau. Quand il n'y avait pas les spectacles dans le chapiteau, ils prenaient le chapiteau pour faire de l'évangélisation. Et puis, il y avait ce qu'ils ont appelé le pavillon ou le Parlement mondial des religions. C'était une espèce de bâtiment où les gens partageaient, échangeaient, toutes les religions du monde se retrouvaient là pour une discussion, pour trouver des terrains d'entente, et trouver quelque chose en commun entre eux. Puis là, les amis de Maudit ont dit, « Hey, tu sais, ils pensaient que Maudit était pour démolir les faussetés qu'il y avait là-dedans, puis... » Mais non, Maudit, c'est pas ça qu'il a voulu faire. C'est ça, vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Je vais rendre Jésus-Christ si attirant que les hommes se tourneront vers lui. » Au lieu de démolir, il voulait présenter le Seigneur Jésus. C'est ça qu'on trouve ici, l'apôtre Paul est en train de faire. Présenter la personne du Seigneur Jésus pour que les erreurs disparaissent. Tellement il est grand, tellement il est merveilleux. Alors, c'est un des passages qu'on vient de lire, c'est un des passages les plus profonds des Écritures sur la personne du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a fait ses salutations au début, il a rendu grâce pour les Colossiens, ensuite il a fait une prière pour eux, puis là on arrive comme le vif du sujet, la présentation de la personne du Seigneur Jésus. Là, il arrive au sujet, puis le but, c'est de présenter sa prééminence, la prééminence du Seigneur. J'ai cherché un petit peu la définition pour juste se rappeler c'est quoi la prééminence au juste. La prééminence, ça veut dire celui qui occupe le premier rang, celui qui domine ou surpasse les autres par son excellence et son importance. C'est ça que ça veut dire, la prééminence. Celui qui domine, qui surpasse les autres par son excellence ou son importance. Alors, c'est l'un des passages les plus profonds des Écritures qui nous présente la personne du Seigneur Jésus. C'est aussi l'un des passages qui a causé une grande controverse dans l'histoire de l'Église à ses débuts, dans les premiers siècles. Il y avait un homme qui s'appelait Arius, et qui, lui, a pris l'expression « premier-né de toute la création ». Voyez-vous, verset 15, « le premier-né de toute la création ». Et lui, il a pris ça comme étant, si le Seigneur avait été créé comme la première des créations de Dieu, comme si c'était sa première créature. Alors, ça a créé une grande controverse, puis il y a eu un concile, c'était vu comme de l'hérésie, comme une fausseté grave. Et c'est dans les années 300, il y a eu comme un concile où ils ont discuté, débattu de ça, puis ils ont dit non, vraiment, c'est faux, c'est grave même, comme erreur. Et savez-vous quelle secte a repris cette même erreur-là? Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah disent que le Seigneur Jésus est la première des créatures de Dieu. Et à partir de là, il aurait créé les autres choses dans le monde. Alors, ce qui est faux, et c'est une erreur de prendre cette expression-là pour dire cela. Alors, même dans les Bibles des Témoins de Jéhovah, il y a des passages qui sont ajustés pour rabaisser la personne du Seigneur Jésus. Alors, c'est assez grave. Puis même, ils ne peuvent même pas écrire le mot « Bible » sur leur livre, ça s'appelle « Traduction du monde nouveau ». Alors, ils n'ont même pas le droit sont même pas autorisés parce que c'est allé en cours, je pense, puis ils n'ont pas le droit de mettre Bible parce que c'est tellement trafiqué, tellement mis leur doctrine qu'on ne reconnaît pas ça comme une Bible. On peut se fier à peu près toutes les Bibles qu'on a, des différentes traductions qui sont fiables, sauf celle-là. Alors, et d'ailleurs, on vendait une petite brochure il y a longtemps à la librairie qui s'appelait « Traduction du monde nouveau, une falsification ». Alors, pour montrer les erreurs, qu'est-ce qu'ils ont fité, pas le bon mot, fité, mais qu'est-ce qu'ils ont mis pour rendre le Seigneur Jésus comme une créature et non pas comme le créateur de toutes choses. C'est l'un des passages aussi qui vient corriger justement cette erreur-là. On peut être certain, on peut pas être certain des erreurs qu'il y avait parce qu'à Colosse, l'apôtre Paul a écrit parce que c'était urgent d'écrire, parce qu'il commençait à y avoir des erreurs de doctrine graves qu'il fallait corriger. Alors, c'est pour ça que cette épître-là a été écrite et envoyée aux Colossiens. Et la personne du Seigneur Jésus, comme je viens de dire, était détrônée, rabaissée, mise beaucoup plus bas au lieu de l'élever. Alors, ici, dans notre passage, on a 7 caractéristiques uniques du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu, qui démontre comment il est suprême, souverain de l'univers. Et on a 7 caractéristiques, et j'aimerais qu'on les regarde rapidement ce matin dans notre passage. Alors, l'apôtre nous présente d'abord le Seigneur Jésus comme l'image du Dieu invisible. Point 1. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alors, le Seigneur Jésus est, d'abord, on devrait dire, Dieu est esprit et par le fait même, il est invisible. Et c'est le Seigneur Jésus qui s'est fait homme, qui nous l'a fait connaître. Quand on voit le Seigneur Jésus, on le voit dans les évangiles, on le voit agir, on le voit avoir de la compassion, on voit sa bonté, on voit sa grâce, on voit sa puissance, on voit plein de choses. Eh bien, on voit Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le Seigneur Jésus est celui qui est l'image du Dieu invisible, celui qui a fait connaître le Dieu aux hommes. Alors, c'est comme ça qu'il nous est présenté. Au début de l'Évangile de Jean, c'est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors, le Seigneur Jésus est à la ressemblance parfaite de Dieu. Il est de la même essence, les mêmes attributs. Dieu le Fils, Dieu le Père. Mais on pourrait inclure Dieu le Saint-Esprit aussi, parce que Dieu est trinitaire dans la parole de Dieu. Alors, on a une phrase qui résume bien, une phrase que j'ai apprise il y a longtemps, qui est bonne à connaître, une phrase qui résume bien la doctrine du Seigneur Jésus. Il est devenu ce qu'il n'a jamais été. Le Seigneur Jésus est devenu ce qu'il n'a jamais été, c'est-à-dire un homme, sans cesser d'être ce qu'il a toujours été. Vous me suivez? Le Seigneur Jésus est devenu ce qu'il n'a jamais été. Il est devenu un homme, sans cesser d'être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire Dieu. Alors, juste cette phrase-là, ça nous aide. C'est une phrase qu'on devrait garder à notre esprit, parce qu'une phrase facile, une phrase qui résume bien ce qui est la personne du Seigneur Jésus. Alors, même dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux nous dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Hébreux 1, 2. Je le dis dans une autre traduction. En fait, il est le rayonnement. Quand on lit dans Hébreux, chapitre 1, on a le mot, dans nos traductions, c'est le mot « reflet ». Mais c'est plus qu'un reflet, c'est un rayonnement. Ça sort de lui. Ce n'est pas juste un reflet de Dieu, mais c'est le rayonnement même de sa personne qui ressort. Alors, le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Alors, voilà D'abord, la première expression, le Fils est l'image du Dieu invisible. Deuxième chose qui nous présente le Seigneur Jésus, il est le premier-né de toute la création. Et ça, il faut comprendre cette expression « premier-né ». Qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? Premier-né, d'abord, dans son sens littéral, c'est le premier-né. Premier-né dans une famille. Hein? L'aîné, c'est le premier-né. Donc, ça a son sens littéral. Il y a aussi un sens figuré. Par exemple, Dieu va dire à Israël, « Israël est mon fils, mon premier-né. Hein? » Il dit ça dans Exode 4, « Israël est mon fils, mon premier-né. » Et c'est une façon de parler d'Israël comme qu'Israël a une place distincte dans le plan de Dieu. C'est comme un titre qui démontre comment Israël était important aux yeux de Dieu. Dieu l'appelle « mon fils, mon premier-né », le peuple d'Israël. Alors, puis Israël n'est pas la première nation qui existait sur la terre avant que la nation d'Israël existe. Il y avait bien d'autres nations qui étaient là avant eux. Mais la troisième expression, ça désigne un titre honorifique. Ça désigne une position sociale. Ça désigne un rang, un statut particulier. C'est un titre, premier-né. Et on le voit, par exemple, dans Psaume 89, là où les questions de David et de sa descendance messianique qui allait conduire jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Au Psaume 89, je donne juste un exemple, il y en a d'autres dans la Bible aussi qui parlent de cette expression « premier-né ». Et dans le Psaume 89, on voit au verset 21 déjà, juste pour voir le contexte un petit peu, psaume 89, 21, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Sautons au verset 28. « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Voyez-vous le titre qui est donné ici, « le premier-né ». Je ferai de lui le premier-né, le premier roi, le plus élevé des rois de la terre. Voyez-vous, ici, c'est un titre qui est donné à David. Est-ce que David était le premier-né dans sa famille? Non. Il était le dernier, il était le petit dernier. Savez-vous combien il y avait de fils, le père de famille? Il s'appelait Isaïe, c'est pas le prophète Isaïe, c'est un autre Isaïe. Comment il y avait de fils? 8, bravo, 8. Il y en a 7 qui sont passés devant Samuel, hein, qui l'oignent avec de l'huile sur la tête. Mais il dit, c'est aucun des 7. Il dit, n'as-tu un autre quelque part, un autre fils? Oui, j'en ai un. J'en ai un qui garde le troupeau. On va le faire venir. Finalement, c'est le petit dernier qui est arrivé, David. Voyez-vous? Puis il est appelé le premier-né. Ah, c'est un titre. Alors, il faut faire attention ici de la façon dont on lit les Écritures. Alors, il est appelé le premier-né. C'est lui qui occupe une place de prééminence sur tous les êtres créés. Troisièmement, verset 16-17, il est le Créateur. Le Créateur de l'univers. Hein? On relit 16-17, « Car en lui » ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le Créateur. En lui, tout a été créé, attendez un petit peu, car en lui, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de créer, c'était en lui ce pouvoir de créer l'univers. Par lui, ensuite, ça nous dit, tout a été créé, car en lui, toutes choses ont été créées, excusez-moi, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Tout a été créé par lui. Donc, il est l'architecte, il est la personne de la Trinité par qui l'acte créateur a été fait. Parce que les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans la création, on ne regardera pas ça maintenant, mais c'est comme si le Seigneur Jésus était l'architecte ou celui qui, par qui tout allait être créé. Et tout a été créé pour lui, pour lui. Il est la cause finale. Il est celui pour qui toutes choses ont été créées. Il est comme le but de la création. Tout a été créé pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. Verset 17. Toutes choses subsistent en lui. Moi, ça me parle beaucoup parce que si on est là, présent, là, dans cette salle, c'est parce que c'est grâce à sa bonne volonté. Si on respire, là, prenez une respiration, vous avez les battements de votre cœur, c'est parce qu'il veut bien. Il veut bien soutenir toute chose. Il soutient toute personne présentement. Il soutient l'univers qui est en marche. Il soutient par sa parole puissante. Waouh! On a un grand Dieu, là. C'est pas petit, là. C'est grand. C'est grand. On ne peut pas voir, s'imaginer la grandeur du Seigneur. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Tout est tenu en équilibre. Et c'est dit dans l'Épître aux Hébreux, ça rejoint la même chose. Dieu l'a établi héritier de toute chose, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, nous dit l'Épître aux Hébreux aussi. Je continue. Quatrièmement, au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Dans le Nouveau Testament, l'Église est décrite comme un corps dont le Seigneur Jésus est la tête. C'est comme une image pour nous faire comprendre qu'on est relié au Seigneur Jésus et on est relié les uns aux autres. On forme un corps, l'Église, et on est directement relié à la tête qui dirige le corps. C'est comme ça que le Seigneur Jésus est présenté. Et comme la tête est dirigée par... Non, je vais reprendre ma phrase. Comme le corps est dirigé par la tête, c'est lui qui contrôle l'Église, qui lui donne vie et direction. C'est lui qui donne direction. Hein? C'est la tête qui donne direction à son corps, qui est l'Église. Alors, Paul fait référence ici à l'Église universelle, c'est pas juste l'Église locale, mais l'Église universelle, l'Église qui a commencé à la Pentecôte et l'Église qui va être enlevée au moment de l'enlèvement. Tous ceux qui sont nés nouveaux appartiennent à l'Église. Alors, il est la tête, il est prééminent sur l'Église, prééminent sur la création, prééminent sur l'Église aussi. Cinquième expression, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Est-ce que le Seigneur Jésus est le premier à être ressuscité dans les Écritures? Non. Mais il est le premier à être ressuscité dans un corps glorieux pour ne plus jamais mourir. Voilà la différence. Il est le premier-né d'entre les morts, dans le sens que Christ ressuscité ne meurt plus. Tandis que tous ceux qui sont ressuscités dans les Écritures, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, sont morts à nouveau. Lazare, Dieu l'a ressuscité, mais il est mort par la suite. Je ne sais pas combien d'années il a vécu, mais il est mort. Etc. Tous ceux qui ont ressuscité, on finit par mourir, mais le Seigneur Jésus, premier-né d'entre les morts, encore là, c'est un titre qu'il détient, il est ressuscité dans un corps immortel maintenant. Ça change tout. Ressuscité dans un corps glorieux. Et il règne sur un ordre entièrement nouveau en tant que souverain. Il est devenu le chef de la nouvelle création. Et ça nous donne un avant-goût, ça nous donne une garantie que si nous avons placé notre foi en lui, nous allons ressusciter nous aussi. Et comme les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire celui qui est ressuscité et tous les autres ensuite vont suivre. Tous ceux qui ont placé leur foi en lui vont suivre. Ils vont ressusciter aussi. Sixièmement, il est celui en qui toute plénitude habite. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ça veut dire que tous les attributs de Dieu, tout ce que Dieu est, était en lui. Et parce que, comme j'ai mentionné, les hérétiques enseignaient que le Seigneur Jésus était comme un maillon dans une chaîne, un barreau d'une échelle. C'est comme si on passait par le Seigneur Jésus, mais il y avait d'autres échelons, d'autres barreau à gravir, tout ça. L'apôtre Paul dit non. Christ possède toute la plénitude totale, la plénitude de la divinité. Et ça n'a pas été donné aux êtres créés, mais à Christ seul. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au chapitre 2, verset 9, nous dit ça. Alors, Christ possède pleinement toute la nature divine, tous ses attributs divins. Alors, il n'est pas un maillon ou un barreau dans une chaîne où il faudrait aller dans des échelons toujours plus hauts. Non, toute la plénitude habite en lui. Et finalement, septièmement, il est le réconciliateur de toutes choses. Verset 20, il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Dieu a voulu tout réconcilier par lui, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'était lu ce matin. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors Dieu, dans la personne de son Fils, a voulu tout réconcilier avec lui-même. Ça englobe tout ce qui existe dans l'univers, puis ça englobe les croyants aussi. Dans un sens, par exemple, ce qui va être réconcilié avec Dieu, ça va être la nature, la création qui a été faite. Parce que la création, nous dit l'Épître aux Romains, souffre et soupire. Elle attend la délivrance. Dans Romains chapitre 8, vous connaissez le passage. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. » pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, la réconciliation, entre autres de tout, eh bien, ça inclut la création qui va être restaurée à son ordre original, parce que la création maintenant est perturbée. Elle est perturbée à cause de la chute, à cause du péché qui est entré dans le monde. Tout a été déréglé, mais la réconciliation est aussi pour les croyants. La réconciliation, ça veut dire un changement dans notre relation avec Dieu. Il y a un changement, une réconciliation qui s'est faite avec Dieu. Et on a les pourquoi aussi. Pourquoi la réconciliation était nécessaire? Eh bien, vous étiez, verset 21, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Pourquoi la réconciliation? Bien, c'est parce qu'on était ennemis, étrangers. Eh bien, à cause de nos péchés, on avait besoin de cette réconciliation avec Dieu. On était séparés de Dieu. La réconciliation était nécessaire. Et on était ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Nos pensées d'abord, parce que le péché commence déjà dans notre esprit et ça se traduit par des actions. Alors, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Comment la réconciliation s'est faite? Eh bien, on le mentionne à chaque repas du Seigneur, un prix a été payé pour qu'on soit réconcilié. C'est le sang de la croix. À la fin du verset 20, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et on sait que ceux qui avaient des erreurs graves dans l'Épître aux Colossiens mentionnaient que le Seigneur Jésus n'était pas vraiment humain, n'était pas parfaitement humain. Et l'apôtre Paul va dire ici, « Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » C'est pour montrer que son corps humain, le Seigneur Jésus a pris un corps humain dans lequel il devait s'offrir à la croix. Et on voit le but de la réconciliation ensuite au verset 22, « Pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. » Dans quel but? Eh bien, pour qu'on puisse paraître devant Dieu saint, sans défaut, sans reproche. Saint, ça veut dire la position, notre position est nouvelle. On était séparés à cause du péché, mais maintenant, on est mis à part pour Dieu. Sans défaut, sans reproche. Personne ne peut désormais nous accuser. Qui accusera les élus de Dieu? On peut vivre dans une paix. Souvent, nos consciences nous accusent, mais on devrait vraiment se rabattre sur les vérités qui nous disent que maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a un avertissement ici avec un « si ». « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables ». Et ça peut nous troubler parce qu'on peut penser que la réconciliation avec Dieu puis notre salut dépendrait de notre persévérance. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que ça veut dire ici. Les passages avec des « si » sont fréquents dans la Bible, il y en a plusieurs, et peuvent paraître indiquer que le salut dépend de la persévérance, mais c'est le contraire à plein d'autres passages qui nous disent que notre sécurité éternelle est garantie, est assurée. Alors, les Écritures, et là je cite un petit peu le commentaire biblique du disciple de M. MacDonald. Il dit ceci, « Les Écritures soulignent que la vraie foi a toujours un caractère permanent et que celui qui est né de Dieu persévérera jusqu'à la fin. La continuité démontre la réalité. » Quoi qu'il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des moments de refroidissement, mais généralement, dans la parole de Dieu, on voit qu'un authentique croyant persévère jusqu'à la fin. Mais l'Esprit de Dieu a jugé bon d'inclure dans la Bible plusieurs passages avec des « si ». Voyez-vous, verset 23, « si » du moins. Alors, l'Esprit de Dieu a jugé bon d'inclure dans la Bible plusieurs passages avec des « si » pour obliger tous ceux qui confessent le nom de Christ à s'assurer de la réalité de leur foi. Ces « si » dans les Écritures visent les chrétiens professants de ce monde, ils sont des tests salutaires pour l'âme. C'est ce que M. MacDonald dit dans son commentaire, je trouve ça bien. C'est si dans les Écritures visent les chrétiens professants, des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas passé par une vraie conversion au Seigneur. Alors, c'est un avertissement. Si jamais on n'a pas passé par une conversion authentique au Seigneur, eh bien, ça devrait nous éveiller pour qu'on se tourne vers le Seigneur puis qu'on règle vraiment, pour qu'on ait la certitude de notre salut. Alors, c'est un passage brièvement, j'ai passé rapidement. C'est un message que j'ai donné il y a quelques semaines et je ne l'ai pas revisé à l'avance, je l'ai repris comme ça, mais c'est un passage qui devrait nous aider à l'adoration, nous élever la personne du Seigneur Jésus pour mieux l'adorer, le louer pour ce qu'il est. Mais en même temps, c'est un passage qui devrait nous amener à nous poser une question. Est-ce qu'il est premier dans ma vie? s'il est en tout le premier, verset 18, fin du verset 18, il nous dit, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Les premiers en ce qui regarde la création. Il est premier en ce qui regarde l'Église. Mais est-ce qu'il est premier dans ma vie? Si on pense à ce qu'on vient de lire, on peut réfléchir. Il est celui pour qui j'ai été créé. Hein? Tout a été créé par lui, pour lui. Alors, je me pose la question, si j'existe, si je suis là, avec ce que le Seigneur m'a donné comme capacité, comme conscience, comme faculté, en fait, j'ai été créé pour lui. Est-ce que ma vie reflète cette vérité-là? J'ai été créé pour lui. Est-ce que ça paraît dans ma vie? Il est celui à qui je suis lié. Il est la tête de l'Église. Donc, si moi, je fais partie de son corps qui est l'Église, puis il est la tête, celui qui devrait diriger ma vie, celui qui devrait me montrer sa volonté, parce que c'est le cerveau qui dirige notre corps, eh bien, est-ce que ça paraît dans ma vie? Bonne question. S'il est la tête du corps, moi je fais partie du corps, est-ce que la communication de sa volonté, de sa pensée passe bien? Puis ça se reflète dans ma vie. Et je termine. Il est celui qui m'a réconcilié. D'ennemi que j'étais, je suis maintenant saint et sans reproche devant lui. Est-ce que ma vie reflète cette vérité-là aussi? Je suis réconcilié avec lui. Est-ce que ma vie correspond à ces vérités? Je pense qu'il devrait occuper la première place. Et si ce n'est pas le cas, revenons à lui redonner cette première place. Si ce n'est plus le cas dans ma vie, wow, empressons-nous de le remettre premier dans notre vie. On va s'arrêter là ce matin. J'ai donné brièvement, comme j'ai dit, c'est un message que j'ai donné il y a quelque temps. Je ne l'ai pas revisé à l'avance. J'aurais aimé ça le faire mieux, mais néanmoins, je pense qu'on a une bonne idée, une meilleure idée de qui est la personne du Seigneur Jésus. Et on devrait lui rendre gloire, l'honorer par nos vies. On va prier pour terminer. Seigneur, on se courbe devant toi. Tu es premier, Seigneur, en tout. Tu es le Créateur. Tu es celui qui nous a fait connaître la personne du Père. Celui qui t'a vu agir. Celui qui t'a vu parler. Celui qui t'a vu accomplir des miracles. A vu aussi qui est le Père. Sa bonté, sa grâce, son offre de pardon. Tout ce que tu nous as démontré dans les évangiles, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir de la personne de Dieu lui-même, de ton Père céleste. Tu es celui qui est la tête du corps de l'Église, celui qui devrait diriger nos vies. Et on veut, Seigneur, te donner la première place, que tu sois premier, Seigneur, dans chacune de nos journées, le matin. Que tu sois premier le premier jour de la semaine aussi, le dimanche. Que tu sois premier en tout. On veut, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à ton autorité, nous soumettre à ta seigneurie. Et on veut que nos vies t'honorent en attendant ton retour, Seigneur. On voudrait te trouver actif et en santé spirituelle lorsque tu reviendras. Et on se remet à toi maintenant pour les instants qui suivent, pour la semaine qui a commencé, la journée devant nous. Accompagne-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen.